conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, bonjour. Deuxième interview de Franck Faucheux. Bonjour.
Bonjour.
Je reçois donc pour la deuxième interview Franck Faucheux, qui est architecte, ingénieur ENTPE. Vous travaillez sur la ville, l'innovation de la ville, principalement aujourd'hui, bien évidemment, chez Eiffage Aménagement, en tant que directeur des innovations de la ville. Et j'aimerais bien savoir comment vous êtes passé, puisque vous avez un parcours public-privé. Comment vous êtes passé du ministère à l'aménagement dans un groupe privé ?
Ben assez naturellement, c'est une histoire de rencontres et de personnes. Dans le cadre du club éco-quartier et du label éco-quartier porté par le ministère du logement, j'avais la chance de travailler avec des grandes villes, des petites villes, avec des grandes SEM, des aménageurs publics et privés. Donc en fait, un panel de rencontres extrêmement riche. Et lors de ces rencontres, j'ai notamment rencontré Valérie David, qui est la directrice développement durable et innovation transverse du groupe Eiffage, donc qui porte sur l'ensemble des branches les grandes stratégies, dont en ce moment la grande stratégie bas carbone. On pourra aussi parler du plan de biodiversité, qui est extrêmement intéressant. Un jour, en fait, lors des conversations, en fait, j'ai appris qu'Eiffage lançait un grand écoquartier, donc du côté de Châtenay-Malabry.
Oui, le fameux. L'école centrale, voilà. Paris,
exactement.
Sur lequel,
voilà, exactement.
Vous avez.
La rencontre de personnes fait que, alors à l'origine, on m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un qui pourrait se intéresser par ce type de poste, et j'ai dit que je connaissais quelqu'un très très bien qui s'appelle Franck Faucheux.
Et donc du coup en 2017.
Donc là j'ai pris une disponibilité. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je fais exactement la même chose. Quand on travaille sur la ville en France, il y a toujours un rapport à la puissance publique. Et c'est extrêmement important, notamment les collectivités, par les permis d'aménager, les permis de construire et l'ensemble des autorisations qui sont portées par différents ministères, notamment pour le code de la construction.
C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire qu'un aménageur privé ne peut pas faire n'importe quoi.
Non.
Il y a quand même la puissance publique qui est là pour...
Exactement. Et un aménageur, de toute manière, travaille pour l'intérêt général, parce qu'il doit créer un quartier. Et ce quartier doit se coudre avec l'ensemble de l'eau pluviale, de l'eau potable, de l'assainissement, du transport, etc., qui d'ailleurs apporte la valeur urbaine, sinon immobilière, au quartier. Donc il y a tout un intérêt.
Et avec les habitants.
Et bien sûr avec les habitants. Donc,
parce que coudre la ville, c'est coudre aussi l'urbanité sociologique, on
exactement,
va dire.
Exactement. Et un nouveau quartier, il ne faut pas qu'il soit vu comme le nouveau quartier par les habitants. Donc, tout ce rapport d'ailleurs des maisons du projet. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. On a la chance d'avoir une très belle maison du projet à Châtenay-Malabry, qui est en fait l'ancienne école maison du directeur. Donc, qu'on a ouvert comme maison du projet et qui est en fait un espace ouvert à tous. Et cet espace de rencontre...
Et ça, c'est recoudre avec aussi le souvenir des anciens.
Alors oui, alors ça, c'est assez drôle en fait, hein, parce qu'on a beaucoup d'anciens élèves de l'école centrale Paris qui viennent et qui s'émeuvent du temps passé, voire même... nous, on est d'un côté extrêmement fiers parce qu'on a gardé tous les déchets sur place. Donc, on avait 90 000 mètres carrés de salles de cours d'amphithéâtre à détruire avec du très bon béton des années 70. Chose intéressante, bâtiment qui n'était en fait pas isolé, parce qu'à l'époque, on avait un autre rapport à l'énergie.
On mettait aussi beaucoup de matière.
Hein. Voilà. Alors, ce qui fait que ça a été du béton qui a donné des gravats. Ces gravats, finalement, aujourd'hui, sont des granulats qu'on réutilise pour le nouveau béton. On fait du béton recyclé. Donc, j'étais extrêmement fier de cette économie circulaire, mais j'ai vu quand même...
Ça, c'est votre côté ingénieur. Hein.
Exactement, complètement. Mais j'ai vu les yeux humides des ingénieurs centraliens qui voyaient...
Donc, ça veut dire que dans ce quartier, il y a à la fois la notion d'une nouvelle urbanité, puisque c'était une ancienne école, et qu'il faut créer un nouveau quartier en osmose avec la ville et avec les habitants. Donc là, Eiffage Aménagement est en tant qu'aménageur.
Exactement.
Vous avez aussi le côté cradle to cradle, c'est-à-dire recyclage, réutilisation des matériaux jusqu'au bâtiment. La filière, elle va de l'aménagement jusqu'au petit bout de balcon.
Exactement, on a toute la chaîne de valeur. Alors tout ça se fait dans le cadre d'une CEMOP, donc Société d'économie mixte à opération unique, donc aussi une innovation finalement là, juridique. Donc ce qui fait que c'est monsieur le maire qui a toujours le dernier mot. Donc ça vraiment, ça c'est intéressant, même si c'est financièrement le groupe Eiffage qui a porté les risques financiers. Mais dans un équilibre avec la ville.
Le dialogue Eiffage a toujours été constructif et fluide.
Oui, en fait, alors il est nécessaire, et d'ailleurs tous les mercredis après-midi, nous sommes à la mairie de Châtenay pour discuter de tas de sujets. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que, donc on est partenaire sur 10 ans, on ne pouvait pas imaginer le confinement. Donc il y a des sujets qui deviennent
justement
importants.
Est-ce que vous modulez l'aménagement? Est-ce que vous modulez certains projets en fonction de ce qui nous arrive?
Alors ça conforte certains partis pris, comme la place de la nature. D'avoir cette promenade plantée qui est faite par le paysagiste base de 2 hectares, d'avoir travaillé sur des noues avec des venelles qui soient uniquement piétonnes, travailler sur l'importance des cœurs d'îlots qui sont de la vraie pleine terre, donc pour qu'on puisse avoir que les racines des arbres puissent aller le plus loin possible. On s'est rendu compte que ce rapport à la nature, proche,
est fondamental. Des cœurs d'îlots, par exemple, accessibles pour les habitants, on peut jouer? C'est pas simplement le cœur d'îlot que l'on regarde, fameux cœur d'îlot qu'on a le droit de regarder et pas de toucher.
Alors typiquement, c'est le genre de sujet qui en fait sont de la compétence des syndics de copropriété. Et là où en fait on avait ces ouvertures en demandant aux syndics finalement comment ils imaginaient la vie de ces cœurs d'îlot, forcément là on pose plus clairement la question, est-ce qu'ils sont vraiment ouverts? Voire même ces cœurs d'îlot peuvent avoir une vraie fonction de santé publique en termes de parcours de fraîcheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un espace, un cœur d'îlot avec une forme urbaine un peu en U, naturellement, il y aura une ombre portée sur une partie. Il suffit d'avoir de la vraie pleine terre, quelques arbustes, voire même un système d'eau qu'on fait renaître par une petite rigole, voire un mur, voire un brunisateur. Donc on peut créer un îlot de fraîcheur. Et donc peut-être que cet îlot-là pourrait être ouvert à tout le monde, en période de grande canicule.
Donc, d'accord, mais ça veut dire avec un espace réglementé, avec des clôtures, avec des fermetures, avec des ouvertures à certaines périodes.
Exactement. Donc ça pose la question de la vie en commun, de l'usage. Ça repose la question du concierge. Ça, d'ailleurs, ça permet même de remettre en avant l'intérêt dans un macro-îlot d'avoir un immeuble de logement social qui aura un concierge et qui pourra justement avoir cette fonction d'ouvrir et de fermer le portail du cœur du lot pour tout le monde. Donc c'est assez intéressant de voir que le confinement n'a pas du tout bouleversé le dessin qui était fait par Delphine Baldé, urbaniste chez François Leclerc, mais au contraire a conforté ces éléments de qualité, d'urbanité, de vivre ensemble, que ce que je donne à voir depuis mon balcon, comment je peux être vu depuis mon balcon. Alors cette intimité, et en même temps on a bien vu pendant le confinement qu'on voulait être à la fois en intimité, puis on était content de se voir quand on applaudissait, d'avoir ce contact visuel, d'être ensemble.
Et alors, est-ce que vous pensez qu'on a un rapport avec le rez-de-chaussée, le pied d'immeuble, et ce cœur d'îlot, mais aussi la rue, qui est différent? Est-ce qu'on arrive à garder une fluidité et évidemment ne pas avoir clôture, haie, fermeture, etc. Est-ce que cette fluidité, on arrive à la préserver, on va dire?
Alors, c'est très, très juste, en fait. Alors, c'est intéressant de voir sur le cas d'école de l'opération de l'écoquartier La Vallée à Châtenay, c'est qu'on a le cours de commerce qui est vraiment la rue commerçante. Donc là, forcément, il y aura des vitrines et on veut de la vie, etc. Et puis, il y a d'autres rues qui vont être plus résidentielles. Et donc, c'est quoi d'avoir un rez-de-chaussée sur cette rue-là qui peut être quand même un petit peu longue? Et on se rend compte qu'on peut peut-être aussi ponctuer certains rez-de-chaussée par peut-être des espaces en commun. Avec, on se rend compte, peut-être des besoins de chambres d'amis partagées qui peuvent être justement directement assises au rez-de-chaussée et ouvertes au public, voire même des espaces peut-être...
La laverie commune, hein,
la fameuse. On parle beaucoup d'ateliers vélo, d'espaces de bricolage en commun. Donc ça fait quelques mètres carrés. Donc ça peut être que 30-40 mètres carrés sur quelques immeubles, mais mis en commun, crée un peu toute une animation de certaines rues. Et après, on voit bien aussi qu'il y a le rapport à la rue qui va être un peu passante et qu'un espace de sociabilité. Et il y a les rapports, les rez-de-chaussée qui sont de l'autre côté et nous ouverts sur les venelles. Et là, on se rend compte que le positionnement des nous, qui sont ces petits fossés qui nous permettent...
Fait une frontière naturelle.
Exactement.
Et permet la mise à distance, essayer d'éviter de marcher sur la terrasse du voisin.
Exactement. Et base, en fait, à proposer notamment des plantes qui sont un peu mi-hautes, mais qui permettent un certain claustrat, et donc justement de ne pas avoir ces fameuses canisses qu'on peut trouver partout. Donc on a cette intimité qui est finalement déjà écrite dans le dessin de l'urbaniste et du paysagiste.
Donc ça veut dire que dans moins de 10 ans, on peut voir ces opérations enfin finies, cette opération finie, et peut-être avec un nouveau regard sur l'urbanité.
Oui, alors même, je dirais que les écoquartiers ont 10 ans. Et donc moi, je suis très content quand je me balade
Justement, le recul, il est critique ?
Alors le recul, alors moi je suis assez content justement de pouvoir que dans beaucoup d'écoquartiers, on a un parc. Vous allez sur le quartier Trapèze à Boulogne-Billancourt. Vous avez ce grand parc qui est en fait un décaissement qui permet d'avoir les eaux pluviales avant de les rejeter dans la Seine. Mais en fait, c'est un grand espace, un petit peu de fraîcheur. De voir aussi que le rapport à la voiture a sa place. La voiture a un vrai outil de liberté. Mais on voit bien que le rapport à la rue en espace partagé est beaucoup plus
fluide. Si ce n'est le fait qu'il n'y avait pas, il y a 10 ans, autant de pistes cyclables et autant d'utilisateurs de vélos. Donc là,
exactement.
On est obligé de faire avec cette nouvelle mobilité.
Exact. Alors en se posant des vraies questions. Ça fait partie un peu des sujets d'innovation. Si je me projette à 2030, alors indépendamment des questions de chaleur et des questions, donc tout ce que le GIEC nous promet et pour l'instant a raison, c'est bien dommage. C'est assez intéressant de dire que c'est bien de construire des choses dont on soit sûr. Je suis sûr que dans 10 ans, il y aura des chambres. Je pense qu'on dormira toujours dans des lits et qu'on fera des cuisines avec des fours, etc. Par contre, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que la voiture, le vélo, les poubelles, je suis assez incapable de vous dire que seront nos besoins. Les voitures seront peut-être électriques,
bien sûr.
Peut-être à l'hydrogène, peut-être personnelles, peut-être partagées. Mais on se rend compte que le quatrième sous-sol sera peut-être compliqué à électrifier. Alors si c'est 15 niveaux de sous-sol, voire partagé en parking silo, ce sera peut-être plus intéressant. Puis si j'ai moins de voitures, je pourrais faire des bureaux ou autre chose dans ce parking-là.
Alors vous savez, vous prêchez une convaincue, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a l'ADN parking silo, je suis désolée.
Mais ça devient un objet urbain.
Bien sûr.
Et ça,
bien
c'est vrai qu'on rentre dans des discussions intéressantes avec les
équipes. Oui, oui.
Et alors, les vélos, pour revenir, c'est extrêmement intéressant de voir. Moi, je trouve ça formidable de voir tous les vélos qu'on a partout, mais aussi comment est-ce qu'on les gare. Et aujourd'hui, je vois un
vélo cargo. Pour l'instant, il y a encore un problème.
Voilà. Et un vélo cargo, c'est un peu compliqué de le ranger dans un local vélo fait par Eiffage. D'où la question que j'ai avec mes collègues. Et si on le sortait de l'immeuble et on faisait une boîte légère en bois, en métal, en container posé sur le sol, qui sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, s'il est plein, on en mettra un deuxième. S'il n'est pas utilisé, on l'enlèvera. Donc c'est assez... Et les poubelles, c'est pareil.
Si encore demain, faut-il la conformité au PLU ou au PLUI, ce qui n'est pas toujours évident, compris pour les bâtiments légers en bois.
Voilà, mais je pense qu'avec les villes de Bordeaux, de Lyon, de Perpignan,
ça va avancer.
C'est très, très bien.
J'ai cru comprendre. Merci. Merci à vous.
Merci.
Et à très vite, chers auditeurs.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.